Comment est-il possible de gagner en perspective, analyser les enjeux avec rigueur et influencer le succès de l'organisation? Avant de débuter l'épisode, nous avons une annonce spéciale à vous faire. Maîtriser la pensée stratégique est l'une des compétences les plus en demande au sein des organisations. Et nous voulons aller plus loin que le podcast. Au courant des 5 prochains jours, nous lançons la prévente de notre atelier en ligne « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique ». Cet atelier cohorte vous permettra d'aborder des enjeux stratégiques avec confiance et vous permettra de développer et communiquer des recommandations sur des bases solides. Nous ouvrons 10 places pour une inscription anticipée à notre atelier avec une énorme réduction en échange de vos commentaires durant la phase de finalisation de l'atelier. Notre futur atelier « Développer et mettre en pratique sa pensée stratégique » est disponible pour quelques jours avec une réduction de 50%. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au prix réduit de lancement. N'attendez pas, ces 10 places sont disponibles jusqu'au vendredi 26 avril 2024 à 18h. Inscrivez-vous en suivant le lien en description ou visitez-nous au www.inteliaconsulting.com/formation.
Bonjour, bienvenue à l'épisode 21 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Véronica Marquez et en compagnie de Jean-François Nantel et d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. Aujourd'hui, dans notre épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Raymond Dyer, gestionnaire qualité chez Accedia, qui vient nous parler de son expérience en gestion et en mise en œuvre des certifications ISO. Bonjour Raymond et merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
Ça va très bien, Véronica. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Super. Raymond, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dis-nous, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la gestion de la qualité et dans les certifications ISO? Qu'est-ce qui t'a amené à ce point-ci dans ta carrière?
La qualité m'a intéressé à un niveau de gestion intégrale de la qualité au début. Juste parce que ça faisait du bon sens, ça amenait une amélioration d'une compagnie, ça établissait des outils d'améliorer et de performer, d'aller vers l'excellence. ISO m'a donné un facteur additionnel de donner un intérêt de l'entreprise au complet. Je venais juste de finir mon MBA, puis j'étais intéressé de savoir comment ça s'applique à travers l'organisation. Ça affecte tous les groupes. Donc, c'est ça. J'ai tombé dans ISO, puis depuis ce temps-là, je m'amuse.
Oui, bien, c'est intéressant que tu dis la vision intégrale de l'entreprise, parce que dans le podcast, on parle souvent justement de cette vision holistique qui est nécessaire pour gérer justement l'innovation, l'agilité et l'excellence. Donc, l'ISO apporte cette vision holistique de l'entreprise, si je comprends bien.
Ça établit la fondation. Je trouve que ça met en place la fondation pour qu'on puisse améliorer de ce point-là après.
Ah, super. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que les certifications ISO sont une obligation pour les entreprises ou c'est un avantage concurrentiel, ou les deux?
Tout dépend de l'entreprise, l'industrie qu'on se trouve dedans. Dans certains cas, c'est absolument une obligation. Si on se trouve dans l'aérospatiale ou dans la télécommunication, medical devices, des appareils médicaux, l'instrumentation médicale, c'est une obligation. L'industrie nous permet pas d'opérer sans avoir ces certifications-là. Dans certaines autres industries, c'est fortement recommandé, surtout par la clientèle. Et dans d'autres industries, c'est encore optionnel, mais ça reste un avantage concurrentiel.
Est-ce que dans une industrie où c'est une obligation, est-ce qu'il y a une manière de convertir cette certification-là aussi en avantage concurrentiel? Parce que si tout le monde l'a, à la limite, l'industrie est standardisée, mais est-ce que ça peut quand même devenir un avantage concurrentiel dans une industrie où tout le monde est obligé de l'avoir?
Oui, mais ça serait plutôt interne qu'externe, dans le sens que un certificat, c'est un certificat. Effectivement, tout le monde l'a sur le mur. C'est ce qu'on fait avec ce système de qualité-là à l'interne qui nous permet de nous démarquer et nous démontrer auprès du client. Donc, c'est là la vraie avantage. C'est pas quelque chose qu'on met sur un site web, c'est quelque chose qu'on donne dans notre performance, dans notre excellence.
Mais justement, parle-nous plus de cette de cette valeur-là qu'apporte la certification dans les organisations. Explique-nous ton commentaire de qu'est-ce qu'on fait à l'interne qui apporte l'avantage concurrentiel.
Une des bases d'ISO, ISO 9001, puis tous les standards sont bâtis autour de cette philosophie-là, c'est l'amélioration continue. Ça fait partie de ce qui drive, ce qui pousse un système de gestion. Et ça veut dire, un, on établit bien la base pour que tout le monde soit bien formé, connaisse les processus ou comment les faire, mais on reste pas là. On continue d'avancer, on continue de développer, on utilise des outils, des mesures, des informations sur notre niveau de qualité pour s'améliorer. Et c'est là qu'on développe il faut avoir l'agilité d'être capable d'aller chercher d'autres façons de faire les choses pour mieux opérer. Et une bonne base de gestion de système qualité nous permet de développer cette philosophie-là, ce leadership-là.
Donc, tu viens de dire des mots qui touchent justement nos thèmes de podcast. Tu as parlé de créer l'agilité pour aller chercher des nouvelles choses. Donc, on parle d'un peu d'innovation et tu parles de l'amélioration continue. Donc, on est vraiment au niveau de l'excellence. Je sais que la certification ISO regarde différents aspects, différents secteurs de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de quels sont ces secteurs-là qui sont adressés ou qui sont travaillés, disons, dans une certification ISO et comment chacun d'eux peut permettre justement cette vision holistique, mais en même temps cette intégration d'innovation, d'agilité et d'excellence?
Donc, il y a beaucoup de clauses dans le standard ISO. Je n'irai pas en détail, naturellement, non. On n'aura pas assez de temps. Mais section 4 traite vraiment du contexte de l'organisation. Il faut bien définir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est où est-ce qu'on opère. Et là-dedans aussi, on définit éventuellement nos key stakeholders, ceux qui veulent, qui sont intéressés à la compagnie. Nos parties prenantes, c'est ça. Donc, il faut en être conscient pour bien développer et lancer l'engagement envers l'organisation. 5, c'est leadership, c'est la direction. Il faut absolument qu'ils soient impliqués, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, pas le détail, mais un survol, et il faut qu'ils soient prêts à investir les bonnes ressources pour soutenir l'organisation. Il faut qu'ils démontrent l'intérêt de vouloir améliorer. Ça part de eux, ça part d'une politique de qualité qui est partagée de eux. Après ça, on a une section du standard qui traite sur les ressources qu'on a besoin. Donc, ça inclut les personnes, l'instrumentation, les édifices, les bonnes conditions de travail. Donc, ça, c'est beaucoup pour s'assurer qu'on a la fondation. Mais quand on parle de connaissances et des ressources des personnes, c'est aussi notre outil d'amélioration. C'est avec notre personnel et la formation qu'on va utiliser comme levier tout ce qu'ils ont pour se développer cette agilité d'innover des nouvelles façons de faire, des meilleures façons de faire. Donc, c'est naturellement 8, c'est tout l'aspect de opération. Donc, ISO 9001, c'est des achats, le design, la conception, la production, la vérification de la qualité et tout. Donc, ça, c'est le cœur d'un processus. Mais la section 9 parle de vérification. Il faut se rappeler que ISO 9001 suit le modèle de Plan, Do, Check, Act. Mm-hmm. Planifier, de faire.
La roue de Deming.
De vérifier, c'est ça la roue de Deming. De vérifier, donc la partie 9, c'est les management reviews, la revue de la direction. On parle des audits internes pour tout vérifier et trouver ce qu'on peut continuer d'améliorer. Et les auditeurs internes ont dans leur intérêt de nous suggérer des façons que l'organisation peut faire les choses plus intelligemment, différents. Ils disent si on rencontre la norme ou non, mais il y a aussi un élément de potentiel d'amélioration, des opportunités d'amélioration. La section 10, c'est sur le traitement des non-conformités, les actions correctives. Et par définition, les actions correctives, c'est pour améliorer le système. Donc, ça va chercher non seulement d'adresser les non-conformités, mais de développer des opportunités d'amélioration. Donc, c'est bâti dans le standard de toujours regarder pour des opportunités d'améliorer.
Mais dis donc, Ray, tu as commencé avec la section 4. Est-ce qu'il y a une section 1, 2 et 3?
Oh, le standard a une section 1, 2 et 3, mais c'est plus des définitions, des termes. Donc, ça explique un petit peu le standard, mais ça contient pas les exigences à laquelle on se certifie. Donc, quand l'auditeur va vérifier, voir si on rencontre toutes les exigences, mais c'est vraiment de la section 4 à 10.
4 à 10. Et puis, pour passer quand même beaucoup de temps avec toi, avec notre implication commune au sein de l'American Society for Quality à Montréal, je sais qu'il y a eu une grande révision qui a été faite dans les dernières années sur les ISO 9001. Et il me semble vous avoir entendu parler qu'on a intégré dans la nouvelle version de l'ISO 9001 une grande connotation au niveau de la gestion du risque.
Absolument. Oui, tu as raison. En 2015, le standard a été mis à jour. Et il y a plusieurs facteurs de la gestion d'un système ISO. Et un de ces facteurs-là qui a été introduit, c'était de gérer par risque. C'est vraiment de regarder tous les éléments de la risque de l'entreprise. Donc, ça peut être les risques stratégiques qui sont discutés au niveau de l'exécutif. Ça peut être des risques du système de qualité. Donc, on va parler plus des rôles des organisations qui travaillent ensemble. Et qu'est-ce que c'est leur risque en particulier? Ça peut être autour des risques du développement de produits. Donc, quand tu développes des produits, c'est quoi les risques en particulier autour de ce produit-là? Ou la gestion de ces projets-là? Et bon, nous, on est allé ISO 27001, donc ça peut aller même plus loin, puisqu'on parle de tout le risque autour de la sécurité de l'information qui devient de plus en plus un sujet pertinent pour nos entreprises avec tout ce qui se passe. Donc, risque et opportunité sont développés. Là. Puis la partie opportunité, c'est de soulever où est-ce qu'on a des chances d'améliorer des choses. Pas nécessairement parce que ça a un risque, mais il y aura un potentiel d'améliorer. Donc, et risque et opportunité, c'est les deux notions qu'avant existaient dans le standard, mais étaient moins bien définies ou appréciées. Ça s'appelait action préventive. Préventif, c'était de mettre en place des actions pour éviter que quelque chose arrive la première fois. Donc, il y avait un risque et on va améliorer pour éviter. Donc, la notion a tout simplement été pourfinée pour que ça soit plus tangible et mieux regardé par la direction et par les acteurs.
Tu as parlé aussi tantôt des fondations que la certification ISO 9001 permet de mettre en place dans une organisation, mais quel est le rôle de l'équipe de gestion dans toute cette structure-là de travail, dans la certification? Mais en fait, je sais qu'il y a du travail à faire pour obtenir la certification, mais il y a énormément de travail de maintien aussi, parce que c'est pas, comme tu disais, ce n'est pas juste un certificat qu'on met au mur, mais sinon c'est comment on travaille au quotidien. Mais quel est le rôle de l'équipe de gestion dans des entreprises qui ont des certificats ISO pour s'assurer de le maintenir et de le faire développer, parce que tu ne veux pas que ça stagne non plus, tu veux que ça puisse croître avec l'organisation. Donc, comment est-ce qu'ils doivent gérer tout cet aspect-là pour que ça puisse croître?
Donc, il faut qu'ils émettent le ton. C'est eux qui émettent la direction de où est-ce qu'on va se rendre. C'est quoi notre contexte? C'est quoi notre stratégie? Ils commencent avec une politique de qualité et des objectifs de qualité qu'il faut qu'ils soient atteints. Bon, c'est très beau d'émettre des objectifs, mais après ça, faut vérifier où est-ce qu'on en est rendu. Donc, ça c'est là où on retourne dans la section 9, où est-ce qu'on parle plus de la vérification, de ramasser des mesures pertinentes, ce qu'on appelle en anglais des key performance indicators, donc des indicateurs de performance clés pour l'organisation. Et puis, bon, OK, on les rapporte, mais là, il faut les regarder. Et on a des objectifs, est-ce qu'on les rencontre? Et ça, normalement, on fait ça ou on regarde ça dans une revue de direction formelle ou ça peut même être une base à tous les quarts, les trois mois, où ce qu'on regarde, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on rencontre nos objectifs? Et quand on les rencontre pas, il faut prendre des actions. Parce qu'encore, c'est beau d'avoir des mesures, mais si on les rencontre pas, il faut s'assurer que des actions soient prises. Il y a un autre rôle qui est souvent manqué par certaines organisations, c'est le leadership, c'est la direction qui va permettre des ressources basées sur la gestion de risque encore, le besoin, le coût, mais qui vont investir et dire on a besoin de telles ressources pour améliorer cette situation-là. Donc, ils ont un rôle de bien soutenir l'identification des ressources nécessaires.
Donc, quand on parle de ressources, on parle d'employés, mais on parle d'outils de travail, on parle de dollars aussi pour être capable d'investir, pour développer.
C'est toutes sortes de ressources. Ça peut être effectivement les employés, ça peut être le développement de ces employés. Par exemple, nous, dans notre cas, c'était pertinent que tous les employés soient très, très conscients de la protection de la sécurité de l'information. Donc, il y a beaucoup de formations qui se passent au niveau de se protéger, mais il y a aussi de la formation sur c'est quoi notre système de qualité, comment que ça fonctionne. Il y a des nouvelles outils qui soient déployés ou mis en place, mis en œuvre, qui vont améliorer notre performance. Mais c'est très bon d'avoir des meilleurs outils, mais il faut s'assurer que la formation et la compréhension de comment s'en servir soient mises en place aussi. Donc, c'est de l'argent pour le temps, la formation des employés. Ça peut être des contracteurs, des consultants pour nous aider à améliorer notre situation aussi, de mieux comprendre, parce qu'on n'a pas tout nécessairement l'expertise, donc on va aller la chercher où est-ce qu'on en a besoin.
Puis tu as parlé tantôt de la politique de qualité. Mm-hmm. Une politique de qualité, est-ce qu'elle va regarder surtout les choses à l'interne ou on va regarder, ou en fait, je te pose la question pour la politique de qualité, mais l'ISO, dans le fond, est une introspection de comment nous, on fait les choses, ou est-ce qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment nos concurrents, comment notre compétition agit, qu'est-ce qu'eux, ils font? Est-ce qu'il y a ce volet-là qui est impliqué dans l'ISO?
Il y a absolument un volet externe et ça s'appelle client. Il n'y a pas de politique de qualité. Une bonne politique de qualité doit absolument adresser le besoin et le désir de satisfaire le client. Donc ça, c'est primordial. Une bonne politique de qualité doit aussi mentionner l'aspect de l'amélioration continue. C'est de devoir continuellement obtenir ça. La politique de qualité devrait aussi dire un petit peu c'est quoi notre but? Qu'est-ce qu'on est? Qui est-ce qu'on est? Donc effectivement, c'est notre apparence, c'est notre valeur ajoutée perçue dans le marché. On est une compagnie de consultation. On fabrique des outils pour améliorer le sort des employés qui en ont besoin. C'est quoi exactement? On cherche à améliorer la santé du public. Il faut vraiment bien définir qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre but, et là-dedans, incorporer l'aspect de la satisfaction des employés, des clients. Et naturellement, un élément d'admiration et des objectifs principaux. Sans nécessairement les numéroter, les quantifier dans la politique elle-même, mais donner des indications de c'est quoi nos objectifs clés. Livrer à temps. Ajouter de la valeur pour nos clients. Les rendre plus compétitifs. Donc, chez Essedian, effectivement, ça, c'est un des éléments. C'est on veut rendre nos clients plus compétitif.
Donc, on travaille pour la chaîne de valeur et non pas juste pour la chaîne de valeur complète, mais pas juste pour notre chaîne à nous. Donc, c'est comment on contribue Absolument. À améliorer l'industrie. Mm-hmm. Raymond, tu as mentionné tantôt un point qui m'a un peu interpellée. Tu parlais au niveau de l'équipe de gestion quand ils regardent les résultats des indicateurs de performance. Tu as parlé de mesures correctives. Et plus tôt, tu as aussi parlé de mesures correctives comme étant une des bases principales de la certification ISO. J'aimerais ça que tu nous parles un peu plus longtemps des mesures correctives, parce que moi, j'ai souvent entendu parler que c'était plutôt vers le client, mais toi, tu l'as parlé dans un autre sens. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus longuement.
Oui. Le fondement des actions correctives est absolument de plusieurs sources. Donc, oui, les plaintes clients, c'est absolument une des premières sources qu'on va agir dessus parce qu'on ne veut pas décevoir le client encore. Donc, on prend la peine de regarder, voir qu'est-ce qui a causé le problème, déterminer un root cause, une cause d'origine, et adresser le processus pour s'assurer que ça n'arrive plus. Mais les plaintes clients, c'est juste une des sources. L'autre source, naturellement, c'est si on ne rencontre pas nos objectifs, mais il faut prendre d'action pour les rencontrer. Donc, souvent, ça va être le même facteur. Si on va regarder le processus, vous comprendre pourquoi, c'est quoi la cause d'origine, etc. Les actions correctives, quand on fait des audits internes, pour vérifier que notre système est en place et on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait en place ou qui pourraient être améliorés, on va soulever des non-conformités et identifier des actions correctives en conséquence. Donc, de les audits internes, ça peut arriver. De nos transactions avec nos fournisseurs, si on a un fournisseur qui est constamment en retard, ça va devenir un facteur que ça se pourrait qu'il y ait un indicateur de performance ou ça se pourrait que ce soit quelqu'un du groupe d'achat qui dit non, il faut absolument faire un suivi là-dessus et qui va intégrer la notion de est-ce qu'on pourrait ouvrir une demande d'action corrective auprès du fournisseur. On les appelle souvent des SCAR, Supplier Corrective Action Request, donc des demandes d'action corrective sur le fournisseur. Même quelqu'un qui observe quelque chose, donc c'est pas nécessairement un audit interne, mais qui observe que ça devrait pas se faire. On a vraiment une opportunité d'améliorer quelque chose, peut soulever, on appelle ça tout simplement une observation. Et ça peut être de la part de la direction, ce qu'on appelle des process owners, des propriétaires de processus, ou même d'employés qui disent, hey, by the way, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ça comme problème. Et si on se dit, oh, c'est systémique ou c'est sérieux, effectivement, ça mérite. Parce que c'est toujours un élément de risque. Est-ce que c'est assez sérieux pour mettre l'effort de planifier une action corrective en conséquence? Donc, les sources, ça vient de tout partout. Ça vient de l'interne, d'observation, de la revue de direction, des plaintes de clients, performance des fournisseurs, suivi sur nos indicateurs de performance clés. C'est tout mène à des actions, et les actions mènent à éviter que le problème se répète ou que effectivement on rencontre nos objectifs.
Avant de passer à la dernière question, j'ai une question qui va paraître un peu étrange, mais je me souviens dans le passé avoir déjà entendu des gens me dire une certification ISO, c'est des procédures dans un cartable. Mais avec qu'est-ce que tu m'expliques, une certification ISO, c'est beaucoup plus que des procédures. C'est un ensemble d'actions et de philosophies et de valeurs qui sont véhiculées et partagées au sein de l'organisation pour l'aider à non seulement rester où elle est aujourd'hui, mais continuellement s'améliorer, se développer, trouver, comprendre les risques auxquels elle fait face, mais aussi trouver des opportunités dans ces risques-là et toujours mieux servir ses clients. Donc, le fameux cartable de procédure ISO, c'est comme une planification stratégique, c'est un document qui est vivant, c'est un apparatus qui est vivant puis qui se transforme de jour en jour. Est-ce que c'est bien ça?
Ça devrait l'être. Et ton fameux cartable, il y a une bande dessinée qui s'appelle Dilbert, très comique. Et il y a un que beaucoup de professionnels de qualité reconnaissent, l'expression « beaucoup ». On parle de « big honking binder ». Donc, le gros cartable qui contient toute la documentation. ISO, à l'instant, nous demande même plus. Il imposait dans la version 2008 d'avoir certains processus de documenter. Maintenant, ce qu'il demande, c'est certains enregistrements. Il veut certaines évidences d'un système. Mais l'obligation de documenter a été beaucoup réduite. Dans le fond, l'obligation, c'est de documenter ce qui est nécessaire pour s'assurer que les employés savent quoi faire. Et souvent, cette documentation-là peut s'intégrer dans des groupes différents avec des instructions de travail qui leur appartiennent, surtout pour former les personnes à faire leur processus d'une façon consistante pour obtenir l'objectif. De moins en moins de documentation, même... on a eu des audits internes récemment, puis l'auditeur a dit, vous avez des documents que, avec tous vos processus qui sont tous automatisés en dedans de vos outils, vos applications, c'est plus vraiment nécessaire de documenter ce que vous faites automatisé. C'est là. Donc, ce qui est plus important, c'est que les employés savent qu'est-ce qu'ils ont à faire dans tout ça.
Donc, ça devient, si on utilise la terminologie lean, ça devient qu'on crée notre processus dans un format de Pokayoki où on n'a pas le choix que d'exécuter la tâche et elle est auto corriger, si on veut, ou auto-gérer pour s'assurer que c'est la bonne chose qui est documentée ou qui est faite. Mm-hmm. Et donc, le fait qu'on a intégré nos processus dans nos outils de gestion ou dans nos outils de ERP ou de MRP et tout ça, fait en sorte qu'on a moins besoin de les documenter parce que l'erreur n'est plus nécessairement possible, c'est ça?
C'est ça. L'automatisation des processus. Un des meilleurs exemples, c'est un bordereau d'achat. Je décide que je veux quelque chose. Le système, je le rentre dedans. Et avant qu'un PO, purchase order, une commande soit générée, il faut absolument que ça soit approuvé, dépendamment de la quantité. Puis le système lui-même va suivre le niveau de mon patron va approuver. Et si ça monte un petit peu plus, légal va approuver. Finance va approuver. Donc, c'est tout bâti automatiquement. Donc, okay. Ça, c'est effectivement, c'est pas okay. C'est comme, c'est fait pour pas qu'on oublie quelque chose.
Tout à fait, tout à fait. Donc, ça nous permet de réduire la grandeur de notre fameux cartable de processus.
Absolument.
Parce que dernièrement aussi, on voit de plus en plus de processus qui sont documentés en format vidéo, surtout sur des chaînes de production. Donc, ces vidéos-là qui expliquent comment effectuer le travail, c'est aussi un enregistrement de la procédure. Donc, c'est aussi valide dans un processus ISO.
Oui, oui, absolument. Des vidéos, ça démontre très, très bien, très facilement comment faire les choses. Ils sont souvent intégrés dans des systèmes automatiques où on dit « je suis en train de faire ce morceau-là ou cette pièce-là ». Il va automatiquement avoir une recette qui va dire combien de quoi on a besoin et un petit vidéo ou un dessin qui va un dessin genre IKEA là, qui va nous dire comment l'assembler.
Donc, oui. Espérons plus facile que IKEA.
je l'aime bien. Puis effectivement, on devient de plus en plus, ça va faire au-dessus d'un an maintenant que je travaille de la maison, il n'y a pas de papier. Il n'y a presque pas de papier.
Oui.
On devient de plus en plus virtuel, informatisé, automatisé. Donc, l'idée, c'est, il y a des dangers là-dessus aussi parce qu'on peut ouvrir tellement de façons différentes d'expliquer puis d'entreposer les choses. Il faut avoir une structure. C'est ça que ISO nous permet d'avoir. C'est une structure. On sait où aller chercher l'information.
Parfait. Si on approche les certifications ISO avec notre contexte de notre podcast où on parle innovation, agilité et excellence, comment une entreprise qui est intéressée à la certification ISO ou qui détient une certification ISO, comment le processus qui entoure la certification et le travail de maintien de la certification, comment ça peut aider à une entreprise à innover, à exceller et à stimuler l'agilité?
C'est, comme j'ai mentionné plus tôt, ISO nous permet d'avoir une base. Ça maintient un certain niveau de performance. On a récemment vécu des émotions de la Coupe Stanley. Ces joueurs d'hockey-là, quand ils sont sur la patinoire, ils cherchent à performer. Ils vont trouver des façons différentes à faire des choses. Mais la base du jeu qu'ils font, elle est pratiquée. Le coach et les joueurs savent le plan de match. Savent les stratégies de jeu différents à appliquer et ils le pratiquent. Ils sont bons là-dedans. Donc, ISO, quand on le maîtrise bien, nous donne une base à laquelle, après ça, on peut chercher à améliorer, exceller. On regarde, oui, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On cherche à innover des façons différentes d'adresser ce qu'on fait. Souvent, le problème, c'est que si on n'a pas cette structure-là, en partant, on tombe dans le mode, ce qu'on appelle firefighting. Et puis, qu'est-ce qui va arriver si on demande aux pompiers, mais est-ce que tu aimerais ça investir un peu de temps pour innover? Il va dire, j'ai pas le temps parce que je suis en train de courir constamment. Donc, une structure nous permet d'avoir les choses en place et d'avoir le temps, d'avoir le recul pour réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour mieux rencontrer nos clients et les objectifs de la compagnie.
Et puis quand on parle d'innovation, est-ce que Est-ce que dans la structure ISO, on peut aussi intégrer de l'innovation de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux modèles d'affaires? Tout ça en fait partie aussi, ou c'est, on parle plutôt d'une innovation incrémentale que moi j'associe plus à de l'amélioration continue?
C'est un des facteurs d'ISO qui est encore, on dit souvent qu'ISO est pas prescriptif. Ils vont pas nous dire comment ou quoi faire certaines choses. Ils cherchent pour des résultats. Mais il y a un élément qui est définitivement dans le standard. Il est mentionné. C'est customer satisfaction. On a l'obligation d'aller chercher la satisfaction du client et le feedback, le input du client. C'est cette information-là de, oh, ils aimeraient ça. On le fait pas à l'instant. Ils aimeraient ça. Puis c'est pas une question d'améliorer la vitesse à laquelle on sort un produit, c'est ils cherchent quelque chose de différent. Donc oui, effectivement, c'est un des facteurs d'entrée dans notre processus de développement de produits le plus important. C'est le feedback du client. Qu'est-ce que le marché cherche? Donc, et puis à l'interne, c'est quand les gens se disent, mais cette processus-là est très manuel. Ça serait bien d'automatiser ou d'avoir des meilleurs outils pour mieux contrôler comment qu'on le fait. Donc, encore, c'est pour s'assurer qu'un résultat se fait d'une façon plus consistante, d'une meilleure façon. Mais là, il faut innover parce que ça pourrait vouloir dire de passer d'un outil. Tout récemment, on sert de Google Classroom, qui est très intéressant comme façon de partager des vidéos et de formation. Mais on a dit, le problème, c'est que c'est tout manuel en termes de suivi. Donc, on est en train d'aller vers un autre outil pour tout automatiser, parce que moi, j'ai pas le temps de faire un rappel à 200 employés à ce que vous pourriez faire cette formation-là. Je sais que vous l'avez pas faite, mais c'est tout un tracking manuel. Mm-hmm. Le système le fait automatique. Donc, on cherche vraiment des façons de plus en plus de d'enlever des processus que nous, on n'ajoute pas particulièrement de valeur qui pourraient être automatisés.
Ah, c'est la clé du succès, hein? Réduire la non-valeur ajoutée par des outils plus automatisés. Puis aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. On a des choix à gauche et à droite.
Ouais, le défi, c'est qu'on a tellement de choix que des fois, ça devient un peu frustrant de dire parce que là, on fait ça, mais on se sert de trois outils différents, dépendamment c'est quel groupe. Donc, l'idée, c'est que c'était bien de développer cette agilité, d'explorer des outils différents, mais il y a aussi un élément d'avantage de dire, mais on devrait tous se cibler vers un outil éventuellement.
Bien, dans la sélection des outils, c'est important de comprendre nos besoins d'aujourd'hui, nos besoins futurs, et quels sont les processus que nous, on travaille, qu'on a besoin d'automatiser. Sinon, on choisit n'importe quoi et on transforme notre processus à l'outil qu'on a choisi au lieu que l'outil s'applique à notre processus, ce qui peut avoir un impact sur notre avantage concurrentiel.
Mm-hmm, absolument.
Dernière question pour toi, Ray. On a des auditeurs avec nous. Il y a peut-être des gens qui ne sont moins au courant des certifications ISO parce que ça n'a jamais été une demande ou une obligation dans leur industrie. Qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs qui voudraient se documenter davantage ou voir comment la certification ISO pourrait les aider à continuellement développer leur organisation? Ce serait quoi des étapes clés à faire pour eux ou des informations clés à aller chercher?
Par Google, on peut trouver toutes sortes d'informations. ISO.org, le site web d'ISO, est une bonne façon d'apprendre un peu sur les standards et qu'est-ce que ça exige, mais ça, c'est plus technique. La plupart des gens qui sont pas encore familiers de cet environnement-là vont avoir besoin d'un petit peu plus de coaching, de conseils. Et la meilleure façon d'aller chercher cette information-là, c'est de réseauter. C'est vraiment ASQ a beaucoup d'informations sur la qualité en général, l'American Society for Quality. Mais j'ai un réseau de professionnels à travers de LinkedIn et on a même des groupes de LinkedIn pour que les professionnels de qualité peuvent se poser des questions, explorer, rencontrer du monde et avec ce monde-là, se doter d'un contact personnel pour plus poser des questions puis avoir des pistes. Donc, Il y a trop de façons d'approcher, aller chercher de l'information ISO. Il y a même des compagnies qui se font une expertise de donner toutes sortes de formations et de vidéos là-dessus et tout. Mais moi, je dirais réseauter et de se trouver, se doter de conseils des personnes qui ont une expertise pour nous donner des bonnes pistes à suivre.
Est-ce que c'est un travail que c'est une personne qui fait ou c'est un travail qui doit être fait par une équipe dans l'organisation?
ISO?
Oui.
Excellente question. Il y a plusieurs années, j'avais inclus un commentaire, j'avais écrit un article, est-ce que le directeur de qualité est un gourou ou un coach? Gourou, c'est, il connaît tout. C'est lui qui gère puis il sait quoi faire. Le coach, c'est finalement qui s'assure que tout le monde comprenne leur rôle et l'importance et travaille ensemble en équipe. Et définitivement, la clé du succès, c'est le deuxième. Ma première certification ISO 9002 dans le temps, ça existait. Donc, ça dit déjà un petit peu mon âge, là, mais... ça existait, puis j'étais très, très fier. On l'a obtenu parce que ça prenait absolument que le bureau chef à Montréal et au moins une des trois usines soit certifiée. On a éventuellement eu les trois usines de certifiées, mais ça, il fallait que ça soit fait ensemble, en collaboration, des trois sites différents. Et au tout début, j'avais absolument aucun personnel. Je ne pouvais que réussir avec la collaboration de mes collègues et surtout un facteur immanquable, le soutien de la direction. Et je l'avais. J'étais très, très fier de notre accomplissement. C'était un des premiers dans l'industrie dans le temps, l'industrie chloralcali. Ça prend le soutien de la direction. Et quand on parle de ressources, ça prend... J'avais pas de personne. Il fallait que mes collègues dans les trois sites et mes collègues dans le site de Montréal, le bureau de Montréal, on collabore pour bien réussir notre système.
Est-ce que ça s'applique aussi, cette collaboration-là s'applique aussi quand on est en train de commencer les démarches pour voir est-ce que ça s'applique à nous, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Cette collaboration-là aussi peut être sur place pour cette recherche de validation, voir si c'est intéressant pour nous à explorer ou pas. Ou c'est le rôle de la direction uniquement d'aller vers cette information-là et d'aller chercher est-ce que ça vaut la peine pour nous? Est-ce que l'investissement vaut la peine et qu'est-ce qu'il peut nous rapporter? Est-ce que tu le vois comme étant un rôle de juste une équipe ou d'une personne ou le rôle de l'ensemble?
C'est le rôle de l'ensemble. Entre autres, si on décide, on se demande, est-ce qu'on devrait faire ISO? Est-ce qu'on devrait certifier ISO? Mais tout de suite, en partant, est-ce qu'on a les reins assez solides? Est-ce que financièrement, donc la personne de finance, il est mieux d'être on board, il est mieux d'avoir accepté le concept parce que, regarde, on va le justifier, là, mais il faut vouloir mettre des sous là-dedans. Puis de l'autre côté, on a l'équipe de marketing et de vente. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que le client le demande? Donc ça, c'est tout de suite un des éléments. Puis nous, c'est pas compliqué, la direction côté opération, c'était le leadership. Donc c'était... On le voyait comme, c'est pas juste pour vendre, mais c'est pour opérer. Ça va nous donner une structure qui va être reconnue. Donc, ça prend plusieurs acteurs de travailler ensemble. Mais ça ne va nulle part. Ça peut pas être une personne qui connaît super bien ISO, qui est directeur de qualité, qui dit « I'm gonna make this happen ». Ça arrive pas sans la direction. Ça prend absolument l'implication de la direction. Et après ça, il faut aller chercher la participation des employés, des collègues.
Moi, je retiens trois choses de notre conversation, Raymond. Je retiens que c'est une approche systémique. Donc, on regarde vraiment l'ensemble de l'organisation comme une unité. Donc, vraiment une approche holistique et systémique. Je retiens un côté de collaboration important pour atteindre le succès. Et ce que je comprends aussi, que c'est une fondation, on met en place la fondation pour que l'organisation puisse continuer à se développer et à croître, ce qui permet l'innovation, l'agilité et l'excellence. Est-ce que ça va avec ça ou tu rajouterais d'autres éléments?
Non, je pense que tu as fait un très bon sommaire, Véronica.
Ben Raymond, je te remercie énormément d'avoir été avec nous. Pour nos auditeurs, comme d'habitude, merci de votre écoute, merci d'avoir été avec nous. Nous vous invitons à aller visiter le site inteliaconsulting.com/podcast pour le détail de l'épisode d'aujourd'hui et surtout à vous abonner sur votre podcast préféré. Merci et bonne semaine. Merci Raymond.
Bye bye, merci.